Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Alors Vincent, dans les nouvelles du jour, évidemment, le début des réservations pour la vaccination et au moins à un endroit, le début de la vaccination elle-même.
Oui, absolument. À Laval, c'est quand même encourageant de se dire à des endroits, on s'est dit, on était prêt. Alors,
oui, mais il y a des gens, ce que je comprends, c'est que les gens qui se sont présentés, mettons, à Laval à midi, là, quand ils se sont levés ce matin et qu'ils se sont lancés sur leur ordi, ils savaient pas que c'était aujourd'hui. Eux pensaient que c'était pour lundi, le 1er mars, là, ou peut-être même le 8 mars.
Ils pensaient la même chose.
Puis là, tout à coup, dans leur calendrier, ils ont vu 25 février.
Hey? On part.
Ben oui.
Alors, effectivement, ça progresse déjà, donc, à Laval. Alors, rapidement, ça va prendre de l'ampleur, évidemment, dans la grande région de Montréal et ensuite dans le reste du Québec. Donc, à partir de ce matin, 8 heures, rappelez que on pouvait prendre des rendez-vous là pour toutes les personnes de 85 ans et plus, en fait, nées en 1936 ou avant. Et en général, ça s'est bien passé. Encore là, on sait que les lignes téléphoniques étaient surchargées. Il y a eu certaines personnes qui ont eu besoin d'appeler. Souvent, ça coupait. Mais somme toute, ça allait rondement. D'ailleurs, plus de 75 000 personnes qui avaient des rendez-vous. Évidemment, ce chiffre-là augmente d'heure en heure. Et donc, en général, il n'y avait pas de problème. Quelques problèmes, par contre, en raison des accompagnateurs. Et on l'avait dit, bien, assurément qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient là-dessus, là. Donc, dans ceux entre 70 et 85 ans qui allaient accompagner une personne de 85 ans.
Le gouvernement avait été clair sur le fait que ce serait permis et qu'ils seraient vaccinés.
Absolument.
Mais ils sont pas allés faire le changement sur le site d'inscription pour me permettre d'inscrire ça, là.
De sorte qu'on peut s'imaginer un couple de 87 ans et 84, et là, ils voulaient s'inscrire, et on inscrit de 87, mais il n'y a aucune option pour ajouter l'autre personne. Et là, certains qui sont... Ben là, est-ce qu'on ferme la page ou est-ce qu'on... Ben, on,
mais
on
là, certains disaient l'option, c'est que tu mentes sur l'âge.
Tout à fait. Mais plusieurs sont mal à l'aise avec le fait de mentir sur l'âge, en disant, je vais-tu être refusé à la fin? Est-ce que je vais avoir une amende ou quoi que ce soit? Donc, ça, on a promis de régler ça donc très rapidement. Et fait à noter incident politique, on verra si ça va plus loin, mais l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre...
Ouais, mais là, Denis Coderre sent quand même la soupe chaude. Là. Il y a une nervosité parce qu'il y a plusieurs messages Twitter dans les deux dernières heures.
Oui, et je pense qu'il regrette ce tweet-là déjà pas mal. Rappelez que un peu plus tôt aujourd'hui, là, vers 11h, il a écrit sur les réseaux sociaux pour dire « Je tiens à saluer le ministre Dubé et son équipe, notamment Sarah Maud ce matin. Il y avait un problème informatique pour prendre rendez-vous pour la vaccination de mes parents. Ils ont réglé la situation en moins de deux. Bravo et merci Christian. » Avec un hashtag, un ministre à son affaire. Mais là, plusieurs personnes ont pris ça comme quoi, ben, Denis Coderre, ça marchait pas avec ses parents. Alors, il appelle le ministre de la Santé, puis le ministre de la Santé, ben, trouve un rendez-vous, fait débloquer le système pour Denis Coderre. Est-ce que c'était du favoritisme? Ben, il a tenu à spécifier Denis Coderre dans les dernières minutes qu'il n'y avait aucun traitement de faveur. C'est ce qu'il écrit sur Twitter. J'ai simplement levé un drapeau suite au problème informatique et remercié, comme il se doit, ceux qui l'ont réglé, point. Et on se demandait, c'est quoi le fameux problème informatique? Et il a écrit, c'est l'impossibilité d'entrer les heures de rendez-vous, donc impossibilité de s'enregistrer. Je sais pas si d'autres personnes ont vécu ça.
Vraiment pas, parce que ce matin, à l'émission du matin avec Jean-François Guérin à LCN, là, il demandait les commentaires du public, puis justement, avez-vous des problèmes informatiques? Il y a le problème qu'on soulignait. Il y a des gens qui disaient, ben, nous, on est accompagnateurs, mais l'impossibilité de rentrer les heures, je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé à M. Coderre, mais c'est... Ça semble pas être survenu à personne pour personne.
Mais il peut y avoir quand même quelques... Lui, ça y est arrivé, là.
Ouais,
peut-être
ouais.
Que... Et je comprends qu'en avisant, si c'est un bon contact avec le ministre d'un problème qui peut aider les autres, là, dans le fait d'être réglé. Mais alors, dans ce cas-là, Christian Dubé a répondu, même en point de presse, qu'il n'y avait pas de favoritisme. Il dit, si vous saviez le nombre d'appels que j'ai eu aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, j'essaie de faire suivre un peu les problèmes, mais on n'a pas fait avancer ce dossier-là avant les autres.
Les audiences sur la mort de Joyce Echaquan vont commencer au mois de mai.
Oui, et c'est un dossier qui, évidemment, a fait tellement ébranler le Québec, celui du décès de Joyce Echaquan, femme Atikamekw de Manawan, décédée dans un hôpital après avoir été victime de propos racistes. Les audiences publiques vont se tenir au mois de mai, donc du 13 mai au 2 juin. Les audiences qui auront lieu au palais de justice de Joliette, c'est le bureau du coroner qui a révélé ces informations-là aujourd'hui par voie de communiqué. Ça va va se faire en mode virtuel, donc évidemment en raison de la pandémie, ce sera diffusé en ligne. La coroner Kamel qui va présider cette enquête publique, évidemment qui sera suivie de près sur la mort de cette femme de 37 ans. C'était survenu le 28 septembre dernier au centre hospitalier régional de Lanaudière. D'ailleurs, on invite ceux qui, il y a des gens qui, ceux qui veulent avoir le statut de personne intéressée, là, donc qui ont un intérêt à suivre ça de près, doivent acheminer une demande écrite pour exposer leurs motifs à la coroner d'ici le 19 mars et pourront assister de près et suivre de près les travaux des audiences publiques.
Il y aura finalement rencontre au sommet entre Régis Labeaume et François Legault dans le dossier du tramway.
Oui, et j'aimerais bien être un petit papillon pour aller voir un peu ce qui va se dire et le ton de cette rencontre.
Ça va quand même bien se passer.
Tu penses?
Oui. Je pense qu'ils s'entendent pas. Ils se pognent un peu. Les tempéraments.
Labeaume peut être bourru sur un moyen
temps.
Avec
le premier ministre, il peut pas vraiment, parce qu'à la fin, il veut son dossier.
T'as raison, Régis Labeaume qui a donc fait cette demande de rencontrer.
Je pense que c'est peut-être préférable de pas amener à la table tous les élus caquistes de la région de Québec.
Non, effectivement.
Là, ça pourrait nuire à l'atmosphère.
Tout à fait. Mais donc, il a envoyé une lettre au premier ministre, donc Régis Labeaume, qui dit, dans l'intérêt supérieur de la région de la Capitale-Nationale, elle demande cette rencontre avec François Bonnardel, le ministre des Transports, et François Legault. Comme quoi, bon...
T'as remarqué qu'il demande François Bonnardel, le ministre des Transports, il demande pas les élus de la région de Québec dans sa lettre.
Non, effectivement, il y a de multiples tensions. Il dit, je sollicite une rencontre avec vous, donc, et François Bonnardel, afin que nous puissions travailler ensemble pour trouver une solution à ce projet important. Et M. Legault a accepté cette invitation. Par contre, on lui a dit, vous allez rencontrer M. Bonnardel en premier, puis après rencontrer le premier ministre. Et ça, M. Labeaume a dit que c'était correct. Il a dit que ça avait...
préparer la rencontre, défricher.
Effectivement, pour défricher un peu, disant que les deux, en fait, tout le monde a le même plan, c'est-à-dire doter la Ville de Québec d'un réseau performant. On sait que M. Labeaume dit qu'il a accepté des compromis, il est ouvert aux compromis. Et la question de l'entente, y avait-il une entente avec le gouvernement ou pas? M. Legault et M. Labeaume ont chacun leur version, mais ils vont se rencontrer, pourront mettre carte sur table et peut-être finalement faire avancer ce projet.
Hier, on avait cette nouvelle dans le décor. Aujourd'hui, on comprend un peu plus. C'est une question de piratage, de gros piratage chez Bombardier, de dossiers secrets dont certains se sont retrouvés là, visiblement en mauvaise main.
Ouais, c'est vraiment embarrassant parce qu'au départ, Bombardier avait dit avoir subi une attaque informatique aux conséquences limitées. Là. Puis on faisait référence surtout à des informations confidentielles de certains de leurs travailleurs au Costa Rica. Donc tu dis, bon, à peu près tous nos dossiers personnels ont été...
Ouais,
de tous les Québécois, donc on sait qu'on peut survivre de ça. Le problème, c'est que 35 gigaoctets de fichiers internes de Bombardier sont apparus en ligne hier sur le Dark Web. Et on retrouve là-dedans des documents militaires secrets, parce que Bombardier fabrique des avions, entre autres, pour de richissimes propriétaires de compagnies, mais aussi pour des usages militaires, entre autres, des avions qui vont être lourdement modifiés par des compagnies pour des avions de surveillance électronique, par exemple. Et on retrouve donc, c'est ce que rapportait le quotidien britannique, le Daily Mail, Bombardier a été victime d'un rançon logiciel, en fait, donc d'une demande de rançon pour, en quelque sorte, débloquer des fichiers. Bombardier a refusé de payer ce montant-là. Alors, des fichiers se sont retrouvés sur le Dark Web, dont des illustrations, des informations sur un avion de surveillance militaire qui s'appelle le Global Eye, modifié par l'entreprise suédoise Saab, des documents techniques sur l'avion, également des dossiers sur des radars d'équipementiers italiens. Ce sont, dans le cas là, du Global Eye, des Global 6000 de Bombardier qui sont modifié par la suite. Donc, à quel point ce sont des éléments sensibles, on le sait pas. Mais c'est sûr que quand t'es une compagnie là, qui veut, ou un pays qui veut acheter de l'équipement militaire, est-ce que tu vas faire autant confiance à Bombardier après ce genre d'incident? C'est sûr que c'est très embarrassant au niveau des contrats militaires pour Bombardier, qui rappelle qu'ils ont fait affaire avec des firmes de cybersécurité et qu'ils ont d'excellents systèmes et que ça a été quand même contré rapidement. Mais c'est pas une bonne journée pour Bombardier là-dessus.
Est-ce qu'il y a des bonnes journées pour Bombardier?
Les week-ends, ouais. Peut-être.
Tiger Woods, qui a donné ses par personne interposée, mais des premières impressions là, sur son après-accident et qui semble pas avoir trop de souvenirs de ce qui s'est passé.
Non, pas de souvenirs de l'accident dans lequel le golfeur a été s'est retrouvé là mardi à 7h du matin. Aucun souvenir. Les policiers, en fait, il y a des enquêteurs qui voulaient l'interroger, mais il ne se souvient pas de l'accident. Ça a été confirmé par le shérif du côté de Los Angeles, Alex Villanueva, dans les dernières heures. On rappelle qu'il a subi de multiples fractures ouvertes, maintenant une tige métallique dans le tibia, des vis et des plaques là, pour consolider les os du pied. Les causes n'ont pas encore été établies. On sait qu'on exclut là, de le poursuivre pour conduite dangereuse ou alcool au volant. On pourrait, par contre, le mettre à l'amende pour conduite inattentive. Ça, c'est pas criminel. Alors, ça pourrait encore tomber sur Tiger Woods, mais on parle tout simplement d'une infraction au code de la route. Et la question du téléphone portable. On doit demander un mandat de perquisition si on veut aller vérifier si jamais Tiger Woods est en train de texter, par exemple. Ce sera peut-être vérifié. On s'attend pas à ce qu'il y ait d'accusation criminelle d'aucune sorte contre Tiger Woods, qui se remet donc de sa chirurgie, mais n'a aucun souvenir de l'accident.
Nouvelle méthode pour éliminer les peurs et les phobies.
Oui, et je trouve quand même intéressant parce que ça fait un peu futuriste, là, une technique développée par des Japonais dans le but de faire, soit on dit, de booster la confiance, là, quelqu'un qui est trop peureux ou qui souffre d'anxiété ou de certaines phobies ou même de stress post-traumatique. Ce qu'ont développé ces chercheurs japonais, c'est qu'on utilise de l'intelligence artificielle et de l'imagerie par résonance magnétique. Admettons, toi, Mario, as-tu peur de qu'il y ait une phobie de quelque chose? Les araignées, les souris, les serpents?
Pas beaucoup ça. À part que le vertige, c'est pas grand-chose.
Le vertige. Okay. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai le vertige.
Mais d'après, ça va être dur à...
Non, pas nécessairement, parce que là, ben c'est sûr que ça va être difficile de te donner un vertige avec un...
C'est parce que c'est moins, mettons, la peur des souris, là, je veux dire, il n'y a aucun danger que la souris a de bouffe, là, tu sais, c'est vraiment dans... Ben, le vertige, je sais, c'est dans ta tête, mais je veux dire, c'est quand même dangereux être en hauteur, là. Je veux dire, être en hauteur sur le bord d'une falaise...
Ouais, mais admettons, t'es au sommet de l'Empire State Building, t'as un gros grillage, tu vas...
Mais je vais y aller quand même. Ça, je vais y aller, là. S'il y a un mur ou une fenêtre...
Mais tu regardes en bas, là...
C'est sûr que ça tourne.
Bon, on va dire...
Enfin.
Imaginons quelqu'un qui a peur des araignées. Dans ce cas-là, OK, les araignées, vraiment, ça le terrifie. Mais avec l'imagerie par résonance magnétique, on va regarder exactement ton cerveau lorsque tu vois une photo d'une mygale, par exemple. OK? Et là, on va noter ce qu'il y a exactement dans ton cerveau à ce moment-là, où il y a une partie de ton cerveau qui s'active. Et dans le cerveau, il semble qu'après un événement assez traumatisant, il y a toujours une espèce de ce qu'on appelle un neurofeedback, c'est-à-dire qu'un peu plus tard, là, ton cerveau va refaire à peu près la même... Tu vas avoir une espèce de flashback, là, et ton cerveau va faire à peu près la même réaction au niveau de tes neurones, là. Alors, ce qu'on fait, là, je simplifie, c'est-à-dire qu'admettons, je te montre une tarentule, puis là, je suis capable de noter exactement avec l'intelligence artificielle ce qui se passe dans ton cerveau. Après ça, au fil de la journée, je surveille ton cerveau pour ce retour, là, ce feedback là, de ton cerveau.
Ou je vais repenser à la tarentule.
Mais sans t'en rendre compte, la manée, tu vas avoir, ton cerveau va refaire un petit flash comme ça d'effroi.
La tarentule, OK.
Et lorsque ça va arriver, je te donne de l'argent. Admettons, donc à chaque fois que tu as ce neurofeedback-là de ton araignée, je te donne 20$.
Ou mettons, tu me donnes un cachou. Moi, j'adore les cachous.
Oui, mais t'adores plus que l'argent.
Je sais pas,
okay,
oui.
Bon, je te donne des bons cachous à chaque fois. Mais tranquillement, ton cerveau va faire que le stimuli original, donc qui était vraiment ta peur de l'araignée, va en quelque sorte disparaître parce que ton cerveau va maintenant l'associer à une récompense.
Quelque chose de positif.
On dit que c'est quand même compliqué à mettre en place, là. Tu peux pas...
Ça veut dire qu'après, à chaque fois que je vais voir une araignée, je vais saliver pour des cachous?
Ben, peut-être pas à ce point-là, mais qu'il y a vraiment une efficacité auprès d'une soixantaine de patients. Alors, c'est pas une grande étude, mais qui montre quand même qu'il y a quelque chose à faire avec, et que dans certains cas, on peut penser surtout à des militaires, par exemple, que le bruit d'un explosif ou quelque chose du genre, les amène dans un état, là, très, de panique, par exemple. Bon, on pourrait traiter certains cas comme ça avec ce qu'on appelle donc le decoded neurofeedback, une nouvelle technique.
Dans les nouvelles, il y a le fabricant de jouets Hasbro, là, dans les derniers instants. T'es-tu au courant de la nouvelle?
C'est sûr que Richard va nous parler de ça tantôt.
Non, mais il y avait une rumeur. Moi, j'avais pas vu la rumeur, sincèrement. Mais il y avait
Monsieur
une rumeur, semble-t-il. C'est ça. Monsieur et Madame Patate qui allaient disparaître pour être non-genrés.
Ce sera juste une patate.
C'est faux!
C'est une fausse nouvelle!
Alors, Hasbro qui dit, là, Mr. Potato Head isn't going anywhere. Ça va rester, je suis fier de confirmer que ça va rester Monsieur et Madame Patate.
Ah ben c'est intéressant. C'est Hasbro, d'où est partie cette nouvelle-là, ou c'est tout simplement qu'ils ont décidé de changer le.
Alors, on va toujours avoir Monsieur et Madame Patate. Bon, on pourrait avoir un troisième patate non genré.
Mais si tu mets la bouche de Madame Patate sur Monsieur Patate,
tu le fais de ton propre nom. Faut juste acheter les deux à tes enfants. Puis t'en fais un non genré.
Ils chicanent pas, peu importe qu'est-ce qu'ils font avec ça là. Je savais même pas que ça se vendait encore beaucoup des Monsieur Patate, mais.
Mais sincèrement, j'avais certains temps que mes à l'âge, mettons, il y a 20 ans, quand mes enfants avaient l'âge de jouer à ça, ça existait encore. On avait un Monsieur Patate.
À mon âge, j'en avais aussi.